Sur la première, CQFD.
On va évoquer la foudre qui est évidemment particulièrement dangereuse lorsqu'elle tombe à proximité d'un aéroport, ou d'une centrale électrique ou même d'une centrale nucléaire évidemment. Des chercheurs genevois justement ont réfléchi aux meilleurs moyens de réduire ces risques. Leur trouvaille s'appelle Laser Lightning Rod. Ça va être testé dès le mois prochain si vous avez besoin.
Oui, Laser Lightning Rod, ça veut en gros, dire tige à éclair laser. Et c'est exactement de ça dont qu'il s'agit. Obliger un éclair de foudre qui a vraiment envie de descendre d'un nuage à suivre un chemin précis délimité par un rayon laser pour ne pas qu'il aille n'importe où. Alors on va un peu entrer dans les détails évidemment, mais sachez déjà que ce projet est mené par l'Université de Genève, qui comprend aussi l'EPFL, la HESSO, Polytechnique à Paris, et la société Trumpf Laser et l'entreprise spatiale Ariane Group, bien ce projet a obtenu un financement de 4 millions de francs de la part de l'Union Européenne.
Nous rejoint par téléphone Jean-Pierre Wolf, bonjour.
Monsieur,
oui, bonjour. Voilà, vous êtes bien là, vous professeur de physique appliquée à la faculté des sciences de l'Université de Genève. Vous êtes un des papas, finalement, de ce paratonnerre laser. Alors d'abord, on va faire un rappel. La foudre, qu'est-ce que c'est, Jean-Pierre Wolf?
Alors la foudre, c'est un déclenchement d'une grosse décharge électrique soit entre un nuage chargé et la Terre, soit entre deux parties d'un nuage chargé.
Mmh. Et quels sont ces dangers?
Alors, le danger, c'est que le courant qui passe dans cette décharge est très élevé. Donc, au moment où il y a un impact sur la Terre ou un objet élevé, il y a un très grand courant qui passe à l'intérieur. Ça chauffe énormément au point que ça fait une explosion. Donc, il y a à la fois un danger létal ou non létal sur des êtres humains ou sur des bêtes de bétail, mais aussi un impact indirect au travers d'un très fort champ électromagnétique produit. Vous savez, ces brouillages électromagnétiques qu'on voit parfois dans les séries télévisées, où tous les ordinateurs s'arrêtent. Et du coup, cet effet-là est aussi très important, notamment si on pense à des aéronefs, par exemple, des avions qui seraient soudainement privés.
Conversation téléphonique. Par exemple. On a l'impression qu'il a pris la foudre sur son téléphone.
Ou de tout leur système électronique.
Voilà, exactement. Alors, on l'a perdu, Jean-Pierre Wolf. Je regarde Jean-Claude Gailly qui est en régie.
Non, ce qu'on peut dire déjà pour avancer un petit peu,
ouais,
c'est qu'aujourd'hui, donc, tous les bâtiments, on le sait, sont équipés de paratonnerres. Hein. Paratonnerre, ça, c'est très haut, justement, pour attirer cet éclair, donc la foudre qui tombe. Et après, il y a un fil, en fait, qui conduit jusqu'à la Terre, et donc ça évite les gros dégâts.
Ouais, ça évite à Alain Souchon d'avoir une coupe de cheveux qui part dans tous les sens, par exemple.
Et comme on a retrouvé Jean-Pierre Wolf, visiblement, alors je viens d'expliquer Jean-Pierre Wolf un peu le principe du paratonnerre de base, un classique, le vôtre, il a un fonctionnement totalement différent. Hein.
Oui, alors du coup, c'est moi qui vous entends plus très bien maintenant.
Ah oui,
Votre paratonnerre, il fonctionne pas du tout comme un paratonnerre normal, ceux qu'il y a sur les bâtiments, ceux-là, ils sont plutôt passifs, quoi. Ils attendent que la foudre leur tombe dessus. Le vôtre, il est plutôt actif.
Exactement. Donc, on remplace les tiges métalliques des paratonnerres classiques par un faisceau laser de grande puissance. Et ce faisceau laser va jouer un petit peu le même rôle que le paratonnerre, c'est-à-dire que lorsqu'il va se propager dans l'air, il va ioniser l'air, donc il va arracher les électrons des molécules de l'air, et donc rendre l'air conducteur.
Mmh.
Donc c'est un peu comme si on avait un paratonnerre de très grande longueur, virtuel, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment un objet, qu'on pourrait ou qu'on peut diriger dans la direction qu'on veut, et en particulier dans la direction des cumulonimbus, donc des nuages d'orage.
Mais alors, donc on imagine l'idée, mais quand la foudre va descendre en suivant le faisceau laser, est-ce qu'elle risque pas de détruire le canon laser?
Ah oui, alors évidemment, ce serait dommage d'avoir une expérience qui ne fonctionne qu'une seule fois.
Oui, c'est ça.
Donc on a bien pensé à ce genre de problème, et le gros avantage de ces lasers ultra-puissants, c'est qu'on peut choisir l'endroit à partir duquel il commence à ioniser l'air. Il faut une certaine intensité pour qu'on puisse arracher les électrons des molécules d'air. Donc on peut choisir si cette intensité va se produire tout près du sol ou tout à la sortie du laser ou 50, 100 mètres plus loin. Et évidemment, c'est ce qu'on fait de telle manière à ne pas rendre l'air conducteur jusqu'au laser lui-même.
Mmh. Alors, ça fait plus de 10 ans que vous travaillez sur ce projet. Vous allez maintenant commencer les essais in situ, dès ce printemps. Ce sera au Sentis. Pourquoi au Sentis ?
C'est un endroit extraordinaire. C'est l'endroit le plus foudroyé de Suisse et peut-être même le plus foudroyé d'Europe. C'est un relais Swisscom. Et donc, au bout de la montagne, il y a une grande antenne qui est foudroyée entre 100 et 400 fois par an.
D'accord.
Donc effectivement, c'est un endroit idéal pour faire une démonstration de notre concept. Et donc, on a en plus un accueil absolument extraordinaire de la station qui est elle-même déjà équipée de tout un système de détection de la foudre et du courant de foudre et de l'électricité autour de la montagne depuis plusieurs années, qui a été installée par l'EPFL. Mmh. Donc on a à la fois le diagnostic et à la fois une occurrence de foudre très élevée.
Bon, un des buts du projet, c'est de protéger notamment les avions, phase de décollage, d'atterrissage notamment. Pourtant, là, et c'est comme ça que je l'ai appris d'ailleurs, l'Office fédéral de l'aviation civile vient d'édicter une interdiction de survol de 5 km autour du site pendant les essais. Pourquoi ?
Ah oui. Alors, effectivement, dans la phase actuelle, c'est une démonstration de principe. Et donc, dans la législation, aujourd'hui, si on veut envoyer un faisceau laser même vertical et même pendant des événements, disons, d'orage, où en général on ne vole pas avec un avion, il faut prendre des mesures. Et donc, du coup, effectivement, il y a un espace restreint à la circulation aérienne. Maintenant, le déploiement, si ça fonctionne, le déploiement d'un tel système pourra être mobile. On pourrait très bien imaginer avoir un laser comme ça qu'on puisse déplacer à un endroit adéquat, donc pour protéger une installation électrique ou une centrale nucléaire ou un aéroport. Mmh. Et à ce moment-là, comme le laser tire verticalement, effectivement, autour du laser, on pourra pas, sur le laser, on pourra pas passer, mais la région autour va être extrêmement limitée. Donc, la zone de non-passage va être extrêmement faible dans une application réelle.
C'est ça. Alors justement, l'application réelle, c'est-à-dire la mise en œuvre finalement de ce paratonnerre laser, la mise en œuvre à grande échelle, est-ce que déjà c'est pour quand ? Est-ce que finalement ça va être facile à mettre en place ?
Alors c'est pour quand ? Ça c'est un peu le but de notre expérience, de notre projet. C'est-à-dire, on va voir à quel point l'efficacité du système est élevée au Sentis, et puis quels sont les paramètres qui permettent d'améliorer cette efficacité. Maintenant, une application qui semble quasi immédiate, c'est la protection, par exemple, des rampes de lancement d'Ariane ou de grands porteurs de satellites. Parce que là aussi, évidemment, vous pouvez imaginer, on n'a pas envie de recevoir la foudre sur les fusées à poudre. Hein. Et donc, ça entraîne des délais au niveau des lancements qui sont très importants. Là aussi, évidemment, on peut très bien imaginer que autour d'une rampe de lancement, on ne va pas avoir de trafic aérien non plus. Hein.
Non, on n'en a pas, non.
L'idée là, c'est vraiment de protéger... de décharger le nuage au-dessus, les nuages au-dessus des rampes de lancement, de telle manière qu'on puisse effectuer des lancements qu'on ne pourrait pas faire autrement. C'est la première étape.
C'est vrai que maintenant, en fait, à Kourou, par exemple, toutes les rampes de lancement sont entourées de quatre énormes piliers métalliques qui sont reliés par des fils eux-mêmes métalliques. Et ça fait cage de Faraday. Et dans une certaine mesure, ça évite la foudre, justement, sur les fusées. Mais c'est assez lourd comme installation, quoi.
Oui, et puis ça limite les impacts au sol. Par contre, il n'est pas question de tirer la fusée à ce moment-là. Mmh. Donc, l'idée, c'est plutôt d'augmenter, disons, les fenêtres de tir en diminuant le risque autour du site, de telle manière que les nuages autour ayant été déchargés, ça nous permette de faire le lancement.
Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour ces premiers essais, Jean-Pierre Wolff. Donc, essai de ce paratonnerre laser. Jean-Pierre Wolff.
Espérer que ça marche mieux que le téléphone.
Voilà, exactement. Je rappelle que vous êtes professeur de physique appliquée à la faculté des sciences de l'Université de Genève.
De 10h à 11h, CQFD.